Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
C'est Michel Zinc, écrivain et spécialiste de la littérature du Moyen-Âge, qui succéda à René Girard au 37e fauteuil de l'Académie française. Voici quelques extraits de l'éloge de René Girard que prononça Michel Zinc dans son discours de réception le 18 octobre 2018. Dans le langage courant, on parle de bouc émissaire. Cette expression, qui donnera son titre à un livre de René Girard, est éclairée par le mot grec « pharmakos », qui désigne un sorcier maléfique, mais aussi un guérisseur. La traduction grecque de la Bible l'applique au bouc. Que dans le Lévitique, on charge de tous les péchés du peuple d'Israël avant de l'expulser et de le chasser dans le désert. Or, la Bible ne dissimule pas que ce bouc, qui purifie la communauté de ses péchés en les emportant au loin, est lui-même innocent. La Bible sait et révèle que le bouc émissaire est innocent. Parmi tous les mythes, toutes les religions et toutes les croyances du monde, la Bible a l'originalité de raconter l'histoire du point de vue des victimes, de se prolonger dans une religion, le christianisme, qui fait de Dieu incarné une victime et qui place dans sa bouche un enseignement révélant des choses cachées depuis la fondation du monde, comme le dit l'évangile de Matthieu. Cette révélation, selon René Girard, est que l'origine de la violence est dans la rivalité mimétique, que la victime émissaire est donc innocente et que la violence dont elle est l'objet est injuste et inutile. En revanche, ce qui, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, n'avait jamais paru jusque-là explicite à personne, ni aux exégètes, ni aux biblistes, ni aux théologiens, ni aux historiens des religions, ce que René Girard affirme seul, c'est que la lente maturation de la Bible s'acheminait tout entière vers la révélation que toute violence est mimétique et qu'elle s'exerce aux dépens d'une victime innocente. Cette révélation, René Girard en trouve dans les évangiles l'expression complète, et elle constitue pour lui le message même du Christ. Il met au jour ce message partout, avec une virtuosité confondante dans la pratique de l'explication de textes. Fondamentalement, il voit dans le commandement premier du christianisme « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » l'équivalent sous une formulation positive des interdits détaillés par le dernier commandement du Décalogue « Tu ne désireras rien qui appartienne à ton prochain. » Ce qui est, pour René Girard, une façon de dire « Tu n'entreras pas en conflit avec ton prochain en partageant son désir. » Il écrit « Le prochain est le modèle de nos désirs. » Et il en tire des conclusions radicales touchant l'influence du christianisme sur l'histoire de l'humanité. Relevant le contraste entre les passages où Jésus, doux et humble de cœur, dit apporter la paix, et ceux où il annonce qu'il provoquera jusqu'au sein des familles des dissensions entraînant des persécutions, René Girard suppose que Jésus a d'abord pensé qu'il lui suffirait de révéler l'origine mimétique de la violence pour la faire disparaître, avant de constater que ce n'était pas le cas et que son enseignement, à demi reçu sans être vraiment compris, aurait au contraire d'abord pour effet d'exacerber cette violence en ébranlant la croyance au mythe de la victime émissaire et en interdisant l'apaisement temporaire de la violence qu'elle procure. De fait, dit René Girard, partout où le christianisme s'est implanté, aucun mythe nouveau lié à la victime émissaire n'a pu prendre corps. Mais les violences contre elle se sont au contraire amplifiées. La mémoire de ces violences n'est plus conservée à travers des mythes qui les travestissent et les voilent, mais ouvertement dans des récits de persécution qui les justifient. Pourquoi étais-je, il y a plus de 30 ans, si ému de voir et d'écouter René Girard en chair et en os? Parce que sa théorie me séduisait, comme tant d'autres, mais surtout parce qu'il me faisait entendre la voix de la liberté. Dans les années 1970 et 1980, il fallait une liberté et une audace peu communes pour prendre au sérieux les auteurs, les textes, les mythes, les peuples, pour ne pas considérer a priori qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ni pourquoi ils le disent. Mais la voix de la liberté, je l'entendais surtout chez un auteur capable de prendre au sérieux la Bible et le Nouveau Testament, de l'avouer paisiblement, de ne pas siéger avec ceux qui ricanent, et d'écrire. Citation. Pour se faire accepter dans les milieux intellectuels, pour montrer patte blanche, il faut réagir à toute mention des écritures judéo-chrétiennes par le coup de pied de l'âne, aussi rituel et aussi automatique qu'un réflexe pavlovien. Fin de citation. Combien je la trouvais littéralement bouleversante, cette voix téméraire qui ne cherchait pas à montrer que la vérité de sa théorie lui permettait de s'appliquer aux écritures judéo-chrétiennes comme au reste, mais qui affirmait que la vérité de la révélation judéo-chrétienne montrait la vérité de sa théorie. On peut en sourire. On a souri à la pensée que les choses cachées depuis la fondation du monde n'ont été mises au jour que par deux personnes, dont la première est notre Seigneur Jésus-Christ et la seconde le professeur René Girard de l'Académie française. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il faut voir les choses. Les fulgurations de la littérature ont fait surgir, aux yeux de René Girard, une vérité dont le déni par les mythes lui a confirmé, à contrario, l'importance. L'enseignement du Christ, préparé par l'Ancien Testament, l'a convaincu que cette vérité-là était la clé de la violence humaine. Le professeur René Girard n'aurait rien trouvé si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait déjà tout dit. Mais quelle vérité ? La pensée de René Girard suppose-t-elle la foi ? Suppose-t-elle une adhésion à la révélation du judaïsme et à celle du christianisme ? La question paraît brutale. Elle est pourtant inévitable et il n'est pas si facile d'y répondre. Dans sa contribution au cahier de Lerne Girard, sur un sujet extrêmement girardien, la victime innocente dans Isaïe 52-53, Sandor Goodhart écrit. Citation. Girard ne nous fournit ni une éthique, ni une théologie. Ses propres croyances personnelles à propos du christianisme sont tout à fait séparables de la théorie anthropologique qu'il retrouve dans l'Évangile. On peut être juif, chrétien, musulman, hindou ou bouddhiste, et en même temps girardien. Fin de citation. Affirmation d'autant moins réfutable qu'il serait incorrect de la réfuter, mais affirmation destructrice d'une pensée qui, si elle n'est pas chrétienne, est partielle. Les admirables analyses littéraires de mensonges romantiques et vérités romanesques sont indubitablement justes, appliquées chacune au texte qu'elle éclaire, mais sans l'appui qu'elle prend sur le christianisme, cette théorie anthropologique menace ruine. Elle n'a pourtant pas besoin, dira-t-on, de faire appel à une révélation divine. René Girard lui-même le suggère à l'occasion. L'enchaînement du désir, de la rivalité et de la violence mimétique, le fantasme de la victime émissaire, relève de la nature humaine et d'elle seule. Les textes bibliques et l'enseignement de Jésus peuvent les avoir mis au jour grâce à une perspicacité naturelle. Si Jésus considérait que sa mission était de révéler aux hommes le mécanisme de la violence mimétique et l'innocence de la victime émissaire, mais non pas d'être nécessairement cette victime, rien n'empêche certes le chrétien de voir en lui Dieu incarné, acceptant la passion pour révéler aux hommes l'origine de leur propre violence. Mais il peut aussi bien être l'homme admirable de Renan, se vouant à une mission toute humaine. Mais ce n'est pas ce que René Girard finit par dire. Sa conviction, exprimée à plusieurs reprises, est que la révélation chrétienne, telle qu'il l'entend, dépassait les capacités de la perspicacité humaine. Citation. Au lieu de lire les mythes à la lumière des évangiles, ce sont les évangiles qu'on a toujours lus à la lumière des mythes. Face à la démystification prodigieuse opérée par les évangiles, nos démystifications à nous ne sont que des ébauches dérisoires, et peut-être aussi les obstacles rusés que dresse forcément notre esprit contre la révélation évangélique. Fin de citation. Ou plus clairement encore, citation, le fait qu'un savoir authentique de la violence et de ses œuvres soit enfermé dans les évangiles ne peut pas être d'origine simplement humaine. Fin de citation. Cette vérité, sa vérité, elle lui est apparue d'abord dans l'immanence et la fragmentation du roman, et non dans l'arrogante construction du penseur. aussi bien sa compétence est du côté de la littérature, seul domaine où il travaille de première main. Il est animé par deux convictions. La première est que la compréhension purement intellectuelle du mécanisme qui conduit du désir à la rivalité puis à la violence mimétique ne porte nullement remède à cette violence, si chacun n'a pas l'humilité de se changer soi-même par ce qu'on appelait jadis la conversion du cœur. En effet, citation, « aucune démarche seulement intellectuelle, aucune expérience de type philosophique ne pourra jamais procurer à un individu la moindre victoire sur le désir mimétique et la passion victimaire. » Fin de citation. Sa seconde conviction est que la vision des vaincus est véridique et que, selon le mot de Simone Veil, la justice est l'éternelle fugitive du camp des vainqueurs. Tout se tient. Un pauvre a crié, Dieu écoute. Et celui qui a grandi sans apparence ni beauté, méprisé de tous, celui qui tend le dos à ceux qui le frappent et les joues à ceux qui lui arrachent la barbe, celui qui ne soustrait pas sa face aux outrages et aux crachats, celui qui est défiguré au point de n'avoir plus apparence humaine et de susciter la stupéfaction horrifiée de la foule, alors que c'était nos souffrances qu'il portait, ajoute Isaïe, celui-là, victime innocente, porte la vérité de Dieu et en est la révélation. Oui, le Dieu de René Girard est le Dieu du Magnificat, qui renverse les puissants de leur trône et exalte les humbles. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.